CFM. CFM. Le sport. Tous les sports. CFM.
Et voilà, il y a à nouveau tout le monde dans le grand studio de CFM qui s'étend maintenant depuis Montauban au 5 boulevard Garrison jusqu'à Rodez en passant par Caylus. Et il n'est pas dit qu'un de ces quatre, on fasse pas un petit détour aussi par notre studio de Cordes-sur-Ciel. Qui est dans les studios de CFM Rodez? Bonjour.
Salut Rémi, bonsoir à tous. Moi je suis là, je suis accompagné de Jean-Claude Vigrou, comme toutes les semaines. Salut Jean-Claude.
Bonsoir les gars.
Salut.
Et puis j'ai même petite surprise, hein, David Fabier qui est arrivé à l'heure aujourd'hui et pour préparer son grand retour dans Sport on the Rock à partir de 19h sur CFM Rodez.
Donc il est en grande forme. Salut David.
Ça va ou quoi?
Ça va super bien. T'as passé de bonnes vacances?
Écoute, pas trop mal, ouais. J'avoue que c'était très sympa. Bon.
Dans les studios de Caylus.
Oui.
Oui, salut Jean-Claude Desforges, alors qui est revenu avec plein de reportages. Il a décidé qu'il faisait toutes les troisièmes mi-temps avec tous les supporters maintenant.
Non, en ce début de saison, je me suis dit que j'allais m'attacher à prendre les supporters de chaque club dans la région. Donc voilà, après Montauban et Biarritz, et ben ça sera au tour de Perpignan et d'Albi.
Voilà, et c'est surtout des supportrices d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais...
Je fais la parité, un supporter et une supportrice.
Dans nos studios ici à Montauban, il y a Jennings d'Harcourt qui est avec nous, ça va Jennings?
Salut Rémi, salut tout le monde. Et vous voyez, l'OM gagne, David revient.
C'est ça. Mais c'est ça, il en a marre de se faire bâcher de toute manière.
Donc c'est un rayon de soleil, c'est David.
Exactement ça.
Et puis Aurélien qui est aux manettes. Évidemment, on va s'intéresser aujourd'hui, dans un premier temps, au Mud Day. Vous savez ce que c'est que le Mud Day? Espèce de grande course qui se fait par équipe, qui est inspirée par le parcours du combattant à l'armée. Voilà. Donc, mais c'est un truc, sauf que là, c'est fun, évidemment. Hein, vous n'avez pas un mec qui vous hurle dessus. Vous n'avez pas 5 heures du matin, vous n'êtes pas dans le froid. Mais enfin, vous roulez quand même pas mal dans la boue. Et ça va se passer à Cap Découverte. On va en parler dans quelques minutes. Et puis, comme d'habitude aussi, eh bien, les résultats sportifs de votre week-end. Et peut-être même qu'on va commencer l'Ico Presto. Non, Aurélien, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses?
On va tourner une courte page de pub, Rémi, puisqu'il faut qu'on dise au revoir ici à nos invités.
Ouais, ou alors on commence avec le rugby à Caylus. Et puis, comme ça, on enverra la pub après.
Eh ben, si tu veux.
Allez, Jean-Claude, c'était à toi.
Allez, c'est parti pour le top 14. Donc, on jouait la 4e journée de top 14. Toutes les équipes qui recevaient ont gagné. Le Castres Olympique, le club d'Urios, recevait son ancien club Oyonnax. Victoire difficile de Castres, 35-26. Clermont a arraché le match nul contre Bègles-Bordeaux après avoir été mené 20-6. Clermont est revenu et a fait un score de parité 26-26. Bègles-Bordeaux n'est pas passé loin. Montpellier a battu largement le Stade français par 44-20. Le Racing a battu Grenoble par 23-14. Toulon est sorti un peu de la galère de toutes les affaires qui lui tombent sur le dos en ce moment. A battu La Rochelle par 45-24. Mais Toulon a pris deux essais d'entrée. Ça n'a pas été simple comme ça. Brive-Agen 18-12. Match nul. Complètement nul. C'est pas au niveau du score, mais c'est au niveau de la manière de jouer. Et enfin, un autre match qui a été ridicule, voire un match des années 70. C'était le match Pau contre Toulouse. 9-6. Un score d'ancien temps. Donc, au classement de ce top 14, après 4 journées, on trouve Clermont 1er, Montpellier 2e, Toulouse 3e, le Racing 4e. Et en fin de classement, on trouve La Rochelle, Agen et le Stade français. On jouait la 4e journée de Pro D2. Le Bayonne a battu Bourgoin par 24-16. Aix-en-Provence enfonce encore un peu plus le Biarritz Olympique par 22-11. Les entraîneurs de Biarritz sont tous virés. Aurillac, les Cartelous sont en forme. Ils ont battu largement Tarbes par 39-14. Le derby du midi entre Béziers et Narbonne a vu les victoires de Béziers par 18-13. Carcassonne n'a pas fait de quartier et a battu Dax par 30-20. Mont-de-Marsan a battu Colomiers par 33-20. Lyon, le leader, était largement favori, a assommé complètement Montauban en marquant 6 essais et a gagné par 44-14. Attention, l'USM, faudrait pas trop s'enfoncer. Et enfin, Albi recevait l'USAP, donc c'était un choc des leaders. Albi a gagné par 23-19 après avoir mené largement en début de première mi-temps. Les gens de l'USAP sont revenus petit à petit dans le match et le coup n'est pas passé trop loin. Et à l'occasion de ce match, j'ai rencontré Jackie, responsable des supporters de l'USAP, et aussi Francine. Alors la Francine, c'est une figure albigeoise du rugby depuis des années et des années. Elle fait des rubriques sur le programme du club et elle représente le club avec ses tambours, c'est elle la chef. Voilà le reportage que je vous ai fait à Albi ce week-end.
Je suis avec Jackie de l'USAP. Bon Jackie, vous êtes venu aujourd'hui à Albi, un jeudi
oui.
soir, pour un match à 19h. Ça vous a pas créé de problème ?
Moi, personnellement, non, je suis en retraite. Mais je comprends que celui qui travaille, ça va être très compliqué pour venir, hein, c'est sûr.
D'habitude, ouais. vous déplacez à combien là, pour les matchs ?
Bah, d'habitude, les clubs de supporters nombreux de Perpignan font des bus. Bon, vous voyez, ce soir, il n'y en a aucun, hein. Le peu de supporters que nous sommes venus tous par nos propres moyens, des voitures particulières.
Hein. Ouais, c'est vrai que ça devient grave, quoi.
Oui, ça devient grave pour la bonne et simple raison que, vous voyez, ce soir, c'est à 19h, nous, ça nous arrange, alors qu'on avait dit que les matchs, le jeudi, seraient à 21h.
Oui.
Donc, rien ne nous dit qu'en plein hiver, quand les Coupes d'Europe de foot vont avoir lieu, Canal Plus va changer la programmation parce qu'il y aura du foot par-ci, par-là, voilà.
Donc, bon. Coup de gueule est donné. Alors maintenant, vous allez me parler de vos espoirs pour l'USAP pour cette année. Est-ce que le monter en top 14 est dans les objectifs ?
Ben écoutez, je pense que c'est dans les objectifs. Monter en top 14, je crois qu'on en a les moyens. Hein. En termes d'équipe, je pense qu'on a les moyens. Maintenant, les moyens après pour subsister à un top 14, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre.
Votre début de saison vous convient, là, après trois matchs ?
Ah, bien sûr qu'il nous convient. Après deux matchs.
Deux matchs, oui.
Puisque notre premier match a été reporté.
Oui, c'est vrai. Donc le fait du SAP va monter. Alors parce que tous les clubs que je vois donnent Lyon comme favori cette année, alors on cherche le deuxième, donc ça serait l'USAP. Ou l'USAP premier.
Ah ben alors là, oui. non, ce serait super. Non, c'est sûr que Lyon est le grand favori. Bon maintenant, l'USAP, je crois qu'il n'y a pas que l'USAP qui prétend à la montée. Hein. Il y a des clubs, ne serait-ce qu'Albi, Mont-de-Marsan, je pense qu'ils seront pas loin derrière non plus. Hein.
Ouais, mais c'est l'histoire de moyens.
Bayonne, etc. Voilà, hein.
C'est l'histoire de moyens le top 14.
C'est sûr que c'est une histoire de moyens. Si c'est une histoire de moyens, on est pas mal quand même. Hein. Je crois qu'on est le troisième budget, donc on est pas mal.
En top 14 l'année prochaine.
Je l'espère.
Merci beaucoup, Jackie.
Merci.
Alors, je suis avec Francine, la supportrice numéro 1 du Sporting Club Albigeois. Alors, Francine, bon début de saison, deux victoires à l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ah, c'est génial. De toute manière, nous avons un nouveau manager qui leur a bien dit que lui, son... de faire au moins comme l'année dernière, mais même d'aller beaucoup plus haut. Hein. C'est-à-dire que notre objectif, si on pouvait, ce serait de monter un top 14. Hein. Il n'y a pas de raison, on ne va pas cantonner tout le temps à rester en Pro D2. Et puis les joueurs, à un moment, eh ben, ils ont aussi ce projet de se dire qu'il faut que nous montions un top 14. Alors, attends, ça va faire combien d'années maintenant que nous sommes en Pro D2 ? Non, alors, notre souhait, bien sûr, nous les supporters, c'est que ça aille encore plus vite, encore plus haut. Et franchement, l'avenir est serein, autant du côté des staffs, autant du côté des joueurs et des supporters.
Bon, bien.
Au revoir. Ravi.
Au revoir, Francine, la supportrice. Hein.
Oui, oui, ah oui, ah oui. Moi, tu sais, je les aime, hein, c'est mes petits. Hein, je suis leur deuxième maman. Hein,
oui, je sais, mais tu leur fais une chronique à chaque
oui,
match.
Oui, oui, c'est vrai. Je leur mets des bonbons, des gâteaux au vestiaire. Il y a des petits secrets comme ça, tu vois. Tu sais, ces joueurs, c'est rien que du bonheur. Ils ont un esprit, ils sont gentils, c'est que du bonheur, ces joueurs.
Voilà. Donc, je vais vous donner le classement de la Pro D2 après 4 journées. Premier Lyon, deuxième Aurillac, troisième Bayonne, quatrième Béziers et Albi. Et en fin de classement, Aix-en-Provence, Bourgoin et Biarritz.
Attends, t'as pas de micro, tu vas pouvoir le redire avec un micro. Vas-y. Non, t'as pas de micro. Alors, il était en train de dire que Montauban s'était pris une raclée ce week-end. Jean-Claude ?
Oui, ben bon, Montauban, c'est pas pris une raclée, mais Montauban est parti chez le leader. Attends, entre Lyon et Montauban, il y a une différence de niveau. Lyon descend de top 14 à des joueurs qui ont certains joueurs internationaux, et puis c'est une grosse équipe. Hein. Montauban, faut faire attention de pas tomber dans la fin de classement. La première année est toujours facile quand on monte parce que il y a un peu l'euphorie, puis il y a l'incertitude du maintien. Tandis que là, ils se sont maintenus comme il faut l'année dernière. Il faudrait pas qu'ils tombent dans la facilité et puis perdre des matchs. Attention.
Et attention. Et concernant l'équipe de France, là, tu y crois, voilà. Toi? Parce que voilà. En 2011, l'équipe de France était loin d'être favorite et pourtant elle a réussi à aller jusqu'en finale.
Ouais, mais en 2001, c'est une autre histoire. Tu sais, les résultats de l'équipe de France de l'ère Saint-André comme entraîneur, c'est 43 ou 44% de victoires, pas plus. Hein. Moi, bon, la chance qu'on aura, c'est de tomber sur une équipe d'Italie amoindrie. Mais on va tomber contre l'Irlande au dernier match et les Irlandais sont troisième équipe mondiale. Nous, on n'est que la septième équipe mondiale au classement de tous les matchs. Donc, on va finir deuxième de poule, on va se taper les Blacks en quart de finale et on rentre à la maison.
Allez, on enchaîne avec, avec eh ben, les résultats internationaux. Oh, ça c'est Rodez qui a la fenêtre ouverte, non?
C'est Caylus. Non, c'est pas la fenêtre, mais c'est les pompiers qui sont à fond là. Mais tout va bien, il y a pas le feu, hein, on est bien.
Bon, ben gardez l'antenne tant que vous l'avez pour la synthèse de la journée football.
Alors, football, bah, ça s'est terminé, Jean-Claude, par la belle victoire de Marseille hier face à
ben
Bastia.
Ben oui, Marseille se réveille, Paris reste en sommeil, puisque les Marseillais sont vainqueurs sur leur terrain face à Bastia sur le score de 4-1, avec un magnifique but de Mendy, une frappe de 20 mètres sous la transversale du gardien Bastier. Et Marseille remonte au classement général à la 11e place, alors que le Paris Saint-Germain recevait Bordeaux. Bien Bordeaux, c'était un bon cru là, puisque lors de ce match, mais les Bordelais ont obtenu le match nul grâce à, on peut dire, à deux fautes du gardien allemand du Paris Saint-Germain qui n'a pas pu contrôler une frappe de la tête et qui, sur le deuxième but, là, et c'est vraiment de sa faute, il a attendu pour jouer au pied dans sa surface de réparation. Mais Kasri était comme un vieux renard à l'affût et lui a piqué le ballon et l'a mis au fond. Donc les deux équipes, Marseille et Bordeaux, se sont quittées sur le score de 2-2. Lyon qui, comme le Paris Saint-Germain prépare la Coupe d'Europe, n'a pas pu faire mieux que le match nul face à Lille. Toulouse s'est bien ressaisi en faisant le nul contre Reims 2-2. Et notre voisin de Montpellier s'est fait battre chez lui encore un coup par Saint-Étienne sur le score de 2-1. Le classement, on trouve en tête Paris Saint-Germain devant Rennes, équipe qui surprend, cette équipe rennaise. Il va falloir s'en méfier. Et troisième Reims et quatrième Saint-Étienne en bas du tableau. Bien, les trois relégables pour le moment, c'est trois avec à la 18e place, 19e Montpellier et 20e Ajaccio. Louis Nicolin à Montpellier doit fumer dans sa tribune ou dans son bureau. Il doit chercher quelque chose, ça doit ruminer là-bas. Et je crains pour l'entraîneur montpelliérain Roland Courbis. En général, ce sont les réactions qu'ont les présidents quand leur entraîneur n'obtient pas des résultats.
Ouais, apparemment, s'il était viré, ça ne le dérangerait pas parce que visiblement, il s'y attend. Il a dit, si je suis viré, ben voilà, je l'aurais mérité, en gros, c'est ce qu'il dit. Hein.
Ouais, mais c'est un poète en plus, Courbis, alors donc, il n'y a pas de problème.
Allez, pub, et puis juste après, on enchaîne avec des résultats de basket, de tennis, et puis on enchaîne, hein, allez,
hop. Et plein d'autres résultats.
Hop. C'est FM à Montauban, 101.2.
Franchir leur montagne à Sapiac. Vendredi 18 septembre à 19h15, match au sommet à Sapiac. L'USM reçoit Aurillac. Les Verts et Noirs ont besoin de vous en ce début de saison. Rendez-vous dans l'antre de Sapiac, vendredi 18 septembre à 19h15, pour le match USM Aurillac. Renseignements 05 63 66 28 18. Plus d'infos sur usmsapiac.fr.
Gagnez vos places sur CFM Radio en appelant le 05 63 930 020 le soir dans l'émission À qui le tour.
À Montauban, c'est aussi la rentrée pour le pôle senior. Les 15 et 16 septembre, la ville de Montauban vous invite à la salle des fêtes du Marché-Gare pour vous informer, vous permettre d'échanger et d'organiser vos activités 2015-2016. Stands, animations, ateliers et conférences sont au programme. Comme chaque année, lors de ces journées, des invitations sont offertes pour le grand spectacle de la semaine bleue. Place offerte dans la limite du stock disponible. La rentrée des seniors au Marché-Gare de Montauban, les 15 et 16 septembre. Renseignements 05 63 63 93 92.
Coxibio, votre dernière épicerie bio totalement indépendante à Aussonne-Montauban. Coxibio n'appartient à aucun réseau. Afin de sélectionner pour vous les meilleurs produits bio et privilégier le circuit court local. Le 20 septembre, Coxibio, partenaire de CFM Radio, en direct de la foire Biosynergie dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste ? Chez Coxibio, l'accueil, l'écoute et le conseil sont essentiels. Coxibio, au plus près du bio. Coxibio, au service du bio et de vos papilles, vous souhaite une douce journée.
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
Bon alors, je fais un petit retour sur les bêtises que j'ai dit juste avant la pub. Là, on parle de basket et on enchaîne de suite après avec le Mud Day qui est de passage le 17 octobre à Cap Découverte dans le Tarn. Et ça va être intéressant cette discussion qu'on va avoir avec Emma dans quelques minutes parce que, eh bien, vous pourrez noter toutes les infos qu'il vous faut pour créer votre propre équipe et participer à ce Mud Day.
Ouais, et en parlant d'équipe, il y en a une qui tourne bien. Tu le disais, c'est en basket, l'équipe de France, évidemment, qui est engagée dans son championnat d'Europe à domicile. Et tout va bien pour les Bleus, Jean-Claude. Ah, suit ça pour nous, il y a France basket, Jean-Claude.
Tout va très bien, Madame la Marquise, puisqu'un huitième de finale au stade Pierre Mauroy à Lille, devant plus de 26 000 spectateurs, l'équipe de France a gagné avec 24 points d'écart face à la Turquie et se qualifie ainsi pour les quarts de finale où elle rencontrera l'équipe de Lettonie, un match où il faudra se méfier des géants lettoniens très adroits, on m'a dit de loin après je cherche
le tir à trois points
au tir à trois points. Alors il va falloir se méfier, ce match a lieu demain, donc tous devant vos téléviseurs demain, pas derrière parce que vous verrez rien, hein. Mais j'espère que l'équipe de France passera ce tour de quart de finale et ainsi sera qualifiée pour les Jeux Olympiques.
Ah, t'as raison. Votre rendez-vous.
Est-ce que vous connaissez le Mud Day ?
Alors ouais, moi oui, maintenant ça y est, je connais.
Alors, bah, est-ce que tu peux nous en faire une petite présentation succincte avant que nous passions la parole à Emma qui accueille le Mud Day le 17 octobre prochain à Cap Découverte.
Alors bon, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais bon, la boue, vous voyez ce que c'est. La boue, on voit tous ce que c'est. Eh ben, figurez-vous qu'il y a plein de gens, plein de jeunes en particulier, qui prennent depuis quelques années le malin plaisir de courir dans la boue à travers des obstacles dans différentes régions françaises. Et ben, figurez-vous qu'on a rendez-vous le 17 octobre du côté de Cap Découverte. Là, il va y avoir de la boue et de beaux obstacles, je crois.
Emma, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, merci.
Est-ce que vous avez couru vous-même une fois dans le Mud Day ?
Alors, pas encore, j'avoue, mais cette année, je le ferai.
Ah !
Après l'organisation, voilà.
D'accord. Donc, alors, on peut d'ores et déjà inscrire son équipe pour le Mud Day du 17 octobre chez vous, hein, c'est ça ?
Oui, il faut surtout l'inscrire rapidement, parce qu'il y a déjà presque 3000 inscrits. Et plus on tarde pour s'inscrire, et plus les tarifs évoluent. Donc, il faut s'inscrire au plus vite, seul ou en équipe.
Alors, on peut le faire seul. Pardon, vas-y.
On peut le faire seul, oui.
Non, mais je m'étonnais que c'est comme pour réserver un avion, plus on approche du but, plus c'est cher.
Eh oui, malheureusement.
D'accord, mais très bien, ça veut dire que ça marche.
Les premiers sont les mieux servis, on va dire.
Ok.
Alors, quelles sont les règles du jeu ?
Alors, les règles, c'est un challenge extrême, hein. Il y a des obstacles à gravir, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a de la glace, et comme vous l'avez dit, il y a surtout de la boue. Après, ce n'est pas une course comme toutes les autres. L'objectif n'est pas de faire un temps, mais c'est de trouver ses limites et de les dépasser. Donc ça, c'est la première règle. Ensuite, il faut avoir 18 ans et avoir un certificat médical permettant la pratique de ce type de compétition. Voilà. Ensuite, on peut donc s'inscrire seul ou s'inscrire en équipe, étant donné que c'est plus fun et plus sympathique en équipe, surtout qu'on aura besoin des coéquipiers pour passer certaines épreuves un petit peu difficiles.
Alors justement, ces obstacles-là, déjà combien il y en aura, puis vous pourriez un petit peu nous décrire, c'est quoi le type d'obstacle qu'on va devoir franchir le 17 octobre ?
Il y aura 13 kilomètres déjà, une boucle.
Ah quand même, oui.
13 kilomètres, donc...
Rien que ça, c'est un obstacle.
Rien que ça, oui,
voilà, pour moi. C'est un obstacle tout seul. Ensuite, c'est donc sur le site de Cap Découverte, donc il y a du dénivelé, puisqu'il y a des descentes dans la fosse et ensuite il faut remonter. Il y aura normalement 22 obstacles qui sont encore, j'allais dire, secrets. Les participants les découvriront 5 jours avant l'épreuve. Donc il y aura plusieurs choses, autant des obstacles à gravir que des passages dans l'eau ou des passages avec des décharges électriques ou des bains glacés, voilà, ou des montagnes debout par exemple. Mais surtout beaucoup de surprises, voilà, puisqu'on a déjà eu une édition l'année dernière, mais là c'est un nouveau parcours avec des nouveaux obstacles.
Alors 3000 personnes vont s'élancer le 17 octobre quand même à Cap Découverte, hein, c'est ça, hein. Sacrée organisation quand même.
Oui, c'est une sacrée organisation. Ça fait quelques mois qu'on y travaille. On attend même 5000 personnes, quasiment comme l'année dernière. Et voilà, on travaille avec ASO, qui est notamment les organisateurs du Tour de France.
D'accord. David Fabier, toi, je te vois bien courir dans la boue, faire tous les trucs qu'ils font à l'armée, là, non ?
Eh bien, bizarrement, je pense que tu te trompes. Non, non, moi, j'aime bien regarder les gens le faire, en effet. Non, mais comme David Dumont, 13 kilomètres, c'est déjà un obstacle, hein, en soi. Après, non, pour en avoir nous parlé un petit peu, et on avait parlé un petit peu de la ruée des Fadas, qui est un peu dans le même concept aussi, un parcours de course à pied par équipe avec des obstacles. Moi, j'ai pas mal d'amis, ouais, qui réalisent ces courses. C'est très sympa, c'est très, très fun, c'est un super moment à partager entre copains, je pense. Il y a une sacrée organisation, donc bravo à eux pour mettre tout ça en place. Et c'est quelque chose de très ludique aussi, où on s'amuse avant tout en faisant du sport, et c'est le vent en poupe, et c'est de bon augure, je trouve.
David, pour la boue, lui, il va à Dax pour soigner ses rhumatismes.
Mais quand vous dites qu'il faut pas arriver les premiers, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on est noté? Parce qu'il faut quand même gagner, non?
Alors non, il n'y a pas gagné, on gagne contre soi-même, en fait. On fait son propre temps, l'objectif étant de finir la course et de passer le maximum d'épreuves. Parce qu'on a toujours la possibilité de ne pas faire l'épreuve si vraiment on trouve ça trop dur. Mais vraiment, c'est un combat contre soi-même. On dépasse ses propres limites. Il n'y a pas de chrono. Simplement, quelques férus participent au chrono parce qu'ils ont vraiment envie. Mais ce n'est pas l'objectif principal de la course. L'objectif, c'est vraiment de s'amuser, de s'entraider entre amis et de réussir les épreuves, de se dépasser, tout simplement.
C'est pas la première année, hein, que vous organisez un mode day du côté la découverte, pardon. Et j'ai le sentiment que ces courses un peu insolites, étranges, ça devient de plus en plus à la mode, ça se développe beaucoup, beaucoup. On est moins en moins dans la compète, on est de plus en plus dans le fun, le délire. Comment vous l'expliquez, vous?
Alors, moi, enfin, je pense que les gens en ont marre un peu peut-être aussi d'être jugés, et ils ont envie de se prouver simplement à eux-mêmes ce qu'ils sont capables de faire, et sans forcément avoir justement, comme vous disiez, une note ou un chrono derrière. Donc c'est peut-être une façon aussi de se déstresser et de prendre du bon temps, voilà, à plusieurs.
Alors, les inscriptions sont ouvertes, hein, pour ce modèle 17 octobre à Cap Découverte. Le jour dit, le 17 octobre, c'est à quelle heure? Ça se passe comment? Alors, il y a différentes catégories. On part tous en troupeau à 5000 et allons-y dans la boue.
Non, pas du tout. Donc déjà, il faut s'inscrire sur le site themodday.com. Et une fois qu'on est inscrit, on reçoit donc tout un petit laïus, un petit mail qui nous explique à quelle heure on doit venir. C'est des vagues de 400 personnes, donc on a à peu près une fourchette. Voilà, on nous dit vous venez entre telle heure et telle heure. Donc avec tout le compte rendu de la journée qui va se dérouler. Ensuite, si on est simple spectateur, on peut venir entre 9h et 18h. C'est là où vont partir tous les participants. Voilà, et on peut s'approcher de certaines épreuves au plus près et justement bien rigoler parfois en regardant certaines épreuves debout.
J'imagine.
Et ben voilà, donc on s'inscrit sur themodday.com. Themodday.com. Et puis voilà, et puis on se retrouve le 17 octobre à courir dans la boue ou à ramper dans les orties. C'est bien.
Et pour ceux qui ne voudraient pas y participer ni venir regarder, mais simplement venir aider, on recherche aussi des bénévoles qui aident le jour de l'épreuve, et c'est tout aussi rigolo. Donc on peut aussi s'inscrire sur le même site, voilà, pour devenir bénévole.
On devient Mud Friends, c'est ça.
Exactement,
hein,
tout à fait.
Ah, ça serait, oui, plus mon style, ça.
Voilà.
Les premiers secours.
Alors pas les secours, parce que bon, c'est quand même un petit peu spécialisé, mais
qui vous dit que je ne suis pas spécialisé?
Ah oui, c'est vrai.
Pour les féminines.
David Cumont, il peut récupérer les blessés, il les met sur son dos, il peut en prendre même deux sur le dos et les ramener sur la ligne de départ. C'est ça, ah, David.
Il est même dit que j'en aurais ressuscité quelques-unes. On a même entendu dire ça.
Ça se dit, ça se dit.
Bon, en tout cas, voilà, tout est sur le site themudday.com. Merci d'avoir été avec nous pour nous en parler. Emma, à bientôt.
Merci à vous, à très bientôt.
L'info en plus.
Bah, j'avais envie de vous parler de tennis parce que vu la grosse actualité du week-end dernier, je pensais qu'on allait passer au travers l'US Open, hein, le dernier tournoi de tennis du grand chelem de la saison, qui s'est terminé hier. Alors si vous avez loupé tout ça entre le foot, le rugby, eh bien sachez que c'est Novak Djokovic, hein, qui a remporté la finale. Il a battu Roger Federer, le Suisse, en finale. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important pour Djokovic, qui empoche là son 10e titre dans un tournoi du Grand Chelem. Il rentre en fait parmi les 5 meilleurs joueurs de l'histoire du tennis moderne, loin encore derrière Federer, hein, 17 titres. Et puis sachez qu'à New York, il y a des Français aussi qui ont brillé. Tsonga, bon ok, il s'est éliminé en quart, mais il y a deux Français qui ont remporté l'épreuve du double. Hier à New York, c'était dans l'épreuve masculine, il y en a un des deux Français que vous connaissez peut-être, il s'appelle Nicolas Mahut, très bon serveur, joueur de gazon, donc pas étonnant qu'il soit bon en double. Il était associé alors là à un jeune homme que je ne connaissais pas du tout, un parfait inconnu en ce qui me concerne, Pierre-Hugues Herbert. Voilà, maintenant tout le monde le connaît, et les deux hommes ont donc remporté l'US Open, le premier titre pour eux dans un grand chelem de tennis.
Eh ben voilà, la suite de ce lundi sport, ce sera, bon on a même un petit peu de temps, donc je me demande si, puisqu'on a une minute, s'il n'y en a pas un d'entre vous qui aurait déjà un quiz, s'il vous plaît, avant les infos, là, comme ça, paf.
Oh, moi, vite fait, ouais, j'ai préparé des questions autour de la Coupe du Monde de rugby, là, qui va débuter ce week-end, ou vendredi peut-être même. Alors tiens, j'en ai préparé plusieurs. Combien de nations ont déjà participé à une Coupe du Monde de rugby? Je veux un chiffre.
18.
C'est plus.
40.
C'est moins. Jean-Claude.
24.
27.
C'est plus que 24, c'est moins que 27.
25.
25.
26.
25. 26. Bravo.
C'est moi qui ai gagné. Ouais.
Voilà, 25 nations ont déjà participé à une Coupe du Monde de rugby. Il y aura pas de nouveau cette année.
Bon.
Et le reste, j'ai d'autres questions quiz pour tout à l'heure.
D'accord. Et vous savez ce qu'on va faire? On va se poser des questions quiz tout à l'heure entre nous, comme ça, pour rigoler. Mais si, un auditeur ou une auditrice de CFM a envie de jouer avec nous,
et
eh bien,
de nous coller,
ils peuvent le faire, répondre aux questions, éventuellement poser une question. Et s'ils arrivent à nous coller ou s'ils arrivent à répondre correctement à un quiz, eh bien, ils gagneront des cadeaux. Pourquoi pas? On a des places pour aller voir, l'USM qui joue contre Aurillac, hein, dans la cuvette de sa Pierre, que ça ce sera vendredi. Donc,
moi j'ai des places de football ici à Rodez. Prochain match à domicile du RAF.
Donc,
Rémi, je posais la mienne parce qu'elle est très difficile.
Ce n'est plus l'heure.
Bah, si elle est très difficile, on n'en veut pas. Nous on n'en veut que des faciles. Allez, après les infos, à de suite.
CFM. CFM. Il est 18h. Envie de cuisiner à la plancha ce soir? Contactez vite les Maîtres du Feu, avenue d'Espagne à Alba Sud Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
CFM, toute l'info Normidie-Pyrénées.
Bonsoir à tous, un jeune homme de 25 ans retrouvé mort au volant de sa voiture à Montauban. Le véhicule a été retrouvé à une cinquantaine de mètres en contrebas de la route départementale 8 à la sortie du hameau de Saint-Martial et d'une courbe en direction de Montclar-de-Quercy. Ce sont des cyclistes qui circulaient sur cette route qui ont donné l'alerte vers 7h45. Le jeune homme de Seine-et-Marne serait mort bien avant la découverte de la voiture et l'arrivée des sapeurs-pompiers. Les restes d'une vache retrouvés dans un champ des restes qui pourraient correspondre à ceux d'un bovin qui avait été déclaré égaré ou volé par son propriétaire ces dernières semaines dans ce secteur. Des attaques ont eu raison d'ovins ces derniers mois. Toutes les hypothèses sont envisagées. Vol alimentaire, vol commercial ou simple vengeance. En tout cas, au-delà de l'impact économique d'un tel acte, puisque la perte est autour de 2000 euros par vache pour les éleveurs, cet éleveur-là s'insurge aussi du traitement réservé à son troupeau. Il fustige les méthodes des braconniers. La 75 fermée pour plusieurs semaines après les inondations dans l'Hérault. Une déviation est en place pour les véhicules légers, mais les poids lourds devront éviter la traversée de l'Aveyron en venant du nord et ils devront privilégier le passage par Toulouse ou par Lyon. Les maisons éclusières en bord de Garonne seront mises à disposition des réfugiés syriens. Une vingtaine de ces maisons situées autour du bassin des filtres devraient toutes accueillir des familles de réfugiés par le biais d'une convention d'occupation temporaire à durée variable. L'idée émane de la députée maire de Meillan-sur-Garonne, Régine Poveda, qui a mis à disposition la maison éclusière de sa commune pour héberger les réfugiés syriens. Une ancienne responsable de l'UMP sur la liste du candidat Front National Louis Alliot pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Chantal Donon-Sobraques et Maïté Carsalade, qui ont travaillé par le passé avec Dominique Baudis ou encore avec Jean-Luc Moudenc, soutiennent donc désormais le Front National. Voilà pour l'essentiel sur CFM dans vos régions. Excellente fin de journée à tous.
Le sport, tous les sports, CFM.
Lundi sport, c'est avec vos questions que nous allons pouvoir continuer dans quelques minutes. On va alterner questions et résultats, hein, si vous le voulez bien, quiz et résultats, histoire de rigoler un petit peu tout le long. Je sais que Jean-Claude Desfarge avait une question super difficile à poser. Il pourrait la poser dès maintenant. Et puis comme ça, juste après, Jean-Claude Vigroux nous donnerait quelques résultats, notamment du RAF.
Alors, je vais vous poser ma petite question. Nicolas Mercier et Ludovic Lambert chez les seniors, Julien Basset et Mireille Pies chez les moins de 15 ans ont battu un record du monde cette année. Lequel ? Alors, pour préciser, le record du monde battu par les seniors, il est de 39,56 m. Et chez les juniors, enfin chez les moins de 15 ans, il est de 32,38 m. C'est un record du monde.
Est-ce que ça s'est passé dans les Pyrénées ?
Pardon ?
Est-ce que ça s'est passé dans les Pyrénées ?
Non.
C'est un lancer, un sport insolite ?
C'est un sport insolite.
Alors, un lancer de pépins, un lancer de noyaux de cerise, lancer crachat de noix de cajou, lancer de cacahuète.
Non.
C'est le lancer de noyaux d'abricot.
Non.
De noisettes.
Non plus.
De prunes.
Non plus. Ah,
c'est bigorneau, pas mal ça, bigorneau.
Une idée, le projectile, c'est un ustensile d'été.
De bah, tongs. De frisbee.
Qui lancer
de tongs. C'est Fada, c'est Fada.
C'est Fada, lancer de tongs.
Ouais, c'est ça. C'est le nouveau record du lancer de tongs.
Ah ben lui, pour les tongs, il connaît. Hein.
Moi, je les ai encore au pied.
Eh, redonne les distances, parce que là, à mon avis, on peut peut-être le battre, celui-là.
Non, mais attends, ils avaient battu avec 43 mètres. Mais il y a des conditions qui sont assez exceptionnelles. Les tongs doivent peser, ne doivent pas peser plus de 225 grammes.
Ouais.
Il faut qu'il y ait un jeteur et un receveur. Et le gars, il calcule la vitesse du vent pour monter la tongue en l'air afin de qu'elle retombe le plus loin possible. Voilà. C'est un record qui tenait depuis 2013. Il a été battu par ces deux Bordelais, ces deux Girondins, cet été à côté de Bordeaux.
Eh ben, ça valait bien deux minutes dans lundi sport. Hein. Allez, Jean-Claude, c'est à toi. Quelques résultats en football local.
Ben oui, le Rodet Aveyron Football samedi recevait la réserve de l'OGC Nice à Pont-Lignon. Les Ruthénois ont perdu sur leur terrain par 2-1 après un très beau match des deux équipes. Il n'y a rien à dire. Les Ruthénois ont aidé les Niçois en se marquant le premier but contre leur camp. Le défenseur a projeté le ballon dans les buts du gardien ruthénois. D'ailleurs, notre ami Julien Lortiouard nous analyse cette rencontre et nous donne ses impressions.
Je suis vachement déçu de cette défaite ce soir parce qu'on a quand même, tiré 30 fois au but. Ils ont été efficaces sur leur action, c'est vrai, du début de match. Nous, on a eu les opportunités de revenir. Voilà. Ils ont eu un gardien qui a fait des très 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 beaux arrêts. C'est le jeu, tant pis, il va falloir aller se remettre au travail dès lundi et aller faire un résultat à Pau.
Alors tu dis le gardien de Nice a fait très beaux arrêts, ouais. Mais on en a aussi loupé pas mal, des belles occasions. Ouais, tu dis 30 tirs, oui. Même mené 2-0, on aurait pu gagner 5-2 ce soir.
Oui, bien sûr, mais il y a eu de tout. Il y a eu des arrêts du gardien, il y a eu des ratés de notre part. Il y a eu un manque d'efficacité, c'est sûr. Hein, sur 30 buts, il n'a pas fait 30 arrêts. Hein, il y a eu un manque d'efficacité de notre part. Mais j'ai confiance à mes joueurs offensifs, à nos attaquants, et je suis sûr que c'est pas possible, ils seront récompensés, on sera récompensé très rapidement.
Ce qui nous donne au classement, le premier Colomiers devant Pau, Rodez glisse à la 6e place, mais n'est pas très loin, il y a 5 points qui séparent le premier de Rodez, donc il va falloir se ressaisir les Ruthénois, et on vous retrouve très bientôt à Pau-Lignon avec une victoire. Mais il y avait les filles aussi. Les filles qui se rendaient à La Roche-sur-Yon et les Ruthénoises ont battu La Roche-sur-Yon. Il est vrai, un club qui monte de deuxième division. Les Ruthénoises ont gagné par 3-0 à La Roche-sur-Yon. Un autre bon résultat, c'est pour la région, c'est l'ASPTT Albi qui a perdu sur son terrain, mais face à Juvisy, c'est un ogre de cette première division féminine, Juvisy. Et donc, les Albigeoises ont perdu par 2-1. En tête de cette poule des féminines en première division, on trouve Lyon, Montpellier, Paris Saint-Germain et Juvisy. Donc ça, c'est ce qui sera le classement à la fin de la saison. Mais Albi et Rodez sont à égalité à la cinquième place avec 9 points. Sachez que le prochain match à Rodez, ce sera Rodez qui accueillera Albi.
Et on y sera évidemment en CFM.
Ben, on n'a pas tout entendu parce qu'à la fin il y a eu un peu de lag comme on dit.
Ah mince. Mais... Bon, rendez-vous pour Rodez Albi chez voilà. Les filles en prochain match à domicile pour la première division féminine et on y sera bien sûr sur CFM.
Allez, une autre question quiz s'il vous plaît dans ce lundi sport, Jennings.
Allez, quel est le record de jongle réussi par une femme?
De jongle avec un ballon de football?
Ouais.
Deux jongles.
La réponse, c'est j'aurais dû préciser, en effet, mais bon.
Bah, 2620.
C'est en nombre de jongles ou en nombre d'heures?
Bah, les deux.
Au bout d'un moment, moi j'arrête de compter. Hein.
Et deux jongles avec un ballon.
Avec un ballon, ouais, rond.
D'accord.
1340.
Oula, t'es très loin. Non.
10 000.
8.
Beaucoup plus. Alors, c'est un
Il faut que tu restes près du micro, Jennings.
Ouais, voilà. C'est un nombre à 5 chiffres.
5 chiffres, donc 10 000.
Oh. Beaucoup plus.
Bah, 99 000.
Combien?
99 000.
Ah non, quand même.
50 000.
Tu chauffes, vraiment, tu
30
chauffes.
30 000.
55 000.
000. Exactement.
Et j'ai donc pas plus.
55 000 jongles.
Un peu plus, c'est 55 187 exactement.
Et ils étaient combien pour les compter?
Ouais.
Alors ça, c'est une très bonne question. Mais ça,
elle a mis combien de temps?
Malheureusement, je ne le sais pas. Alors ça a été réalisé en 1995. Par Mylène Dominguez. Alors, si vous savez pas qui c'est tout simplement une top modèle et ex-femme de Ronaldo, le joueur brésilien qui a pris sa retraite il y a quelques années.
D'accord. Attends, une top modèle qui détient le record du monde de jongle.
Et ouais. Et elle était également footballeuse.
Il faut avoir de la cuisse quand même.
C'est vrai que ça devait en avoir.
Ah bah, ouais.
Et t'as pas son nom?
Mylène Dominguez.
On va regarder ça.
Avec ses pieds ou avec autre chose? Avec sa tête.
Oui, dites donc, Jean-Claude, enfin.
Bah, c'est vrai qu'elle avait de quoi être épuisée, mais bon, là.
C'est avec la tête aussi.
Elle amortit de la poitrine aussi, on a le droit dans les jongles. Là.
Ah oui.
Ça a pu aider. On va regarder la photo.
Pieds, elle bloque le ballon, là.
Donc 55 000 jongles. Elle avait rien à foutre, la femme, à Ronaldo, à un moment donné.
Et ça, franchement, il faut vraiment avoir rien à glander quand même.
Bah ouais.
55 000.
Mais exactement, elle a mis 9h06 pour le faire.
Oh là là. Mais elle a mangé pendant ce temps-là ou quoi?
T'imagines? Bah, je sais pas, mais ouais. Elle est pas trop grosse, c'est quand même.
D'accord, on comprend, mais on s'en fout en plus. Et on la connaît pas, hein.
Bah, regarde sur internet, tu verras bien.
Ah ben ça y est, il est allumé, nous avons notre technicien.
Jean-Claude a besoin d'un technicien pour avoir internet.
Tu verrais la gueule du technicien.
D'accord, on enchaîne avec quelques résultats, ou de la musique un peu, non? Un peu de musique ou de la pub, hein? Et puis quelques résultats de rugby après avec Jean-Claude.
Voilà pour ces quelques mesures de Jaco Gardner, Find Yourself. Allez, il est tout neuf, il va pouvoir accueillir 60 055 spectateurs. Où se trouve donc ce complexe sportif qui va faire la une de la presse internationale dans le courant de ce mois, messieurs, dames,
monsieur. C'est en France ?
Non.
C'est un stade ?
Oui,
monsieur. Angleterre ?
Oui, non. Allez, 60 055 personnes, et ça va être le centre névralgique d'une compétition internationale.
Hein, la Coupe du Monde de rugby, le stade de Wembley.
Non,
c'est pas en Angleterre.
Wembley fait 120 000.
Oui, bah oui, bon, bah j'ai tenté ma chance.
C'est dans quel pays?
Non, là, non, pas, pas,
oui, pardon, c'est dans quel pays? Allez, allez, un peu de.
C'est pas au Qatar. Hein.
Un peu de recherche. Non, ce n'est pas au Qatar.
Est-ce que c'est en Andorre?
C'est pas en Andorre.
À Cap Découverte,
c'est, non, c'est un endroit qui va accueillir une compétition continentale.
À Rio.
Non, ce n'est pas à Rio.
Espagne.
Donc un championnat d'Europe.
Mais non, c'est pas un championnat d'Europe, non, non.
Ah bon ? Une compétition continentale.
Une compétition continentale. 60 055. Et David, on ne triche pas, on ne googlise pas.
Au mois de septembre.
Mais oui, en ce moment même. Enfin, et en plus, c'est une compétition qui fête ses 50 ans, les enfants. Hein ?
Alors, c'est pas la Coupe du Monde de rugby.
Non, mais ça fête ses 50 ans et ça intéresse forcément la plupart des gens qui sont dans cette émission, à part
la Ligue des Champions. La Coupe des clubs champions de football. Ex.
Non, non.
Le basket.
Mais enfin. Allez, regardez un peu vers le sud, quoi. Faites quelque chose.
À Marseille, hein ?
Oh, oh, c'est pas frais, c'est
ah la pétanque.
S'il y avait
la pétanque, le mondial de pétanque.
Et pas du tout. Non, pas s'il y avait un auditeur ou une auditrice qui voudrait gagner, là, ce serait maintenant qu'il faudrait l'appeler au 05 63 930 020 et vous gagneriez vos places pour aller au rugby.
60 000 places, c'est un stade.
Non, mais oui, c'est un stade et c'est pour accueillir du football, messieurs.
Ah, de foot, je pense.
En Afrique.
Une coupe continentale africaine, une coupe panafricaine. 50 ans de cette compétition africaine, messieurs, dames.
Ouais, ça a un lien avec la Coupe d'Afrique des Nations, c'est
et
ça?
Ben oui, bien sûr.
Ben, le Sénégal.
C'est pas Dakar.
Il y a, non. Celui qui a donné pour ce stade, c'est un ancien joueur de l'équipe de France.
C'est à Congo-Brazzaville, messieurs, dames. Le stade de Kintele. Oh. Tout nouveau complexe sportif Kintele, il s'appelle, et vous allez en entendre parler. 60 055 places, ça va être un peu le centre névralgique donc de cette compétition qui démarre là, c'est en ce moment, hein, c'est jusqu'au 19 septembre. Voilà.
D'accord, bah écoute, j'aurais appris quelque chose.
Mais enfin, c'est marrant parce que en France et en Europe, partout, on a beaucoup de joueurs qui viennent de l'Afrique, qui sont formés et donc qui vont rejouer d'ailleurs hein, dans leur pays pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et on en parle très peu finalement de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Oh si, on en parle quand même.
Si, on en parle quand même.
Les matchs sont télévisés. Hein.
Ah oui.
Et pourquoi vous ne donnez pas les résultats alors ?
Ben oui.
Ah voilà.
La semaine prochaine.
On n'a qu'à nous inviter au Congo. Hein. On ira le voir.
Kintele, hein. Ouais, ouais.
Kintele.
Kintele.
T'as qu'à le regarder à la télé. Bon alors. les résultats de rugby peut-être.
Ouais, Fédéral 1, poule 1. Groyer recevait Bobigny. Groyer s'est incliné par 11 à 16. Attention Groyer. Massy a battu largement Lavor par 34 à 21. Valence-Agen, première victoire à domicile contre Anglette, 28 à 21. Dans cette poule, c'est Tyros qui est l'ogre, c'est Tyros qui est premier. Poule 3, qui concerne nos régionaux, Auch a battu Bagnères de Bigorre par 41 à 6. Castanet a largement battu Moléon par 33 à 3. Oloron, autre Cador, a battu Blagnac par 23 à 8. Enfin, Rodez s'est imposé de justesse contre Lombès-Sabatin par 18 à 15. Il n'y a que la victoire qui est belle. Dans cette poule, Auch premier, Castanet deuxième et Rodez est sixième. Voilà pour le rugby des fédérales.
Ouais, alors Jean-Claude, il n'y a que la victoire qui est belle, mais je peux te dire, moi j'étais hier au stade Paul Lignon, la victoire n'était pas belle du tout. Ni pour les cadres, les entraîneurs du SRA, du stade Rodez-Aveyron, ni pour les joueurs. Écoute, la réaction de, par exemple, du deuxième ligne hein, du SRA, Ralph Terry Taoya, et je rappelle que Rodez a gagné 18 à 15 hein, hier au stade Paul Lignon.
18 à 15, ouais.
Le cul bordé de nouilles. Voilà, pour être clair, quoi.
C'est-à-dire ?
Mais on mérite pas la victoire, c'est tout. On a de la chance, hein. juste envie de dire que un match, ça se gagne avec une humilité comme ça, quoi. Avec beaucoup d'humilité, c'est tout.
Et là, tu trouves que vous avez manqué d'humilité ?
Mais carrément.
Sur quels éléments ?
Sur les consignes. On a des consignes, on les respecte même pas. On n'a pas foutu de les respecter. Mais enfin, tu as bien vu hein, ce qui s'est passé.
Vous les avez pris de haut ?
Peut-être. Peut-être, ouais. Franchement, faut pas que ça soit comme ça tous les dimanches, hein, parce ouais. que je suis très en colère. Là. Je suis parti faire les Oceania, là, comme je t'avais dit. J'étais avec des mecs qui ont un cœur comme ça, quoi, qui joueraient, ouais. qui aimeraient être en notre place, quoi. Et... On fait juste les enfants gâtés.
Deuxième match, ça termine quand même sur une victoire.
Ouais, hein. ouais, faut pas non plus, ouais, c'est sûr. C'est sûr, ouais, on a pris les 4 points. Et puis, alors c'est sûr que le niveau de la Fédérale 1 se resserre de plus en plus. Il y a plus de petites équipes, quoi, franchement. Et c'est pour ça qu'il faut être concentré, quoi, de la première jusqu'à la dernière minute. Hein.
Et ouais, ça a été super chaud, hein, parce que Rodez aurait pu perdre à la fin si Lombez n'avait pas manqué deux coups de pied, a priori assez facile.
C'est dans cette poule 3, il y a 4 cadors. Hein. Qu'il faudra faire gaffe, c'est Auch, Castané, Nevers et Oloron. D'ailleurs, ils ont déjà fait le trou au classement et je pense que ça va être les 4 équipes qui vont jouer le haut tableau pour les phases finales. Et pour la descente, ça va se jouer entre Rodez, Agde et Mauléon. Donc Rodez, gare.
Et Mauléon, c'est le prochain rendez-vous, un déplacement pour le SRA, le week-end prochain.
C'est où Lombez ?
C'est dans l'Aude.
À côté de Sabatan.
Dans Gers, ouais, dans Gers. L'autre, dans l'autre.
Non, mais Lombez. C'est donc il y a un supporter, moi, qui m'a.
Tu connais pas Lombez Sabatin ?
Ah non, moi, non.
Si, si.
D'accord.
Moi, je connais.
D'accord.
Lombez Sabatin, c'est connu dans le monde entier.
Jean-Claude, tant que t'as la parole, Jean-Claude Vigroux.
Ah oui.
Une question sur le football en 1932, vas-y.
Mais non, justement, non.
Presque.
Voilà, parce que je sais que vous trichez, que vous regardez sur vos ordinateurs. Moi, je veux vous dire quelque chose d'assez simple, assez courant. Quel est le poids d'un ballon de football pour un match officiel, poids en début de rencontre ?
Ça pèse combien, ça ? 1 kilo ? 1 kilo ?
Ah, mais il te faut jouer avec des sabots à ce moment-là. Hein.
600 grammes.
Parce que ça fait mal, hein, 1 kilo. Hein.
Et 600 grammes, ça fait mal aussi ?
Ça fait mal aussi.
300 grammes, 300.
C'est, ouais. Non, là, il s'envole, là, tu le retrouves plus.
Et alors, 500 grammes.
Combien ?
Moins de 500 grammes.
Moins de 500 grammes, oui.
420.
Non.
480.
Non.
490.
450. Qui a dit 450 ?
451.
Adjugé, vendu à 450.
Ouais ! Gagné la queue du Mickey !
Avec ça pèse, un ballon de foot, ça pèse 450 grammes.
Tout à fait, monsieur.
Et à la fin du match ?
Et il peut perdre presque 50 grammes.
Ah ouais. Et quand c'était des ballons en cuir, à la fin du match, il faisait 800 grammes. Hein.
Ah oui, tout à fait.
Pour quelle raison ça perd du poids ?
Mais parce qu'il était en cuir, il prenait de l'eau, les ballons, et il devenait lourd. C'était comme une éponge, hein.
Ouais, et puis en plus, quand il gelait, tu prenais ça sur la tête, bonjour.
D'accord. Et, ouais. Et maintenant, pourquoi il perd du poids ?
Parce que l'air se dégonfle.
Parce qu'il s'use. Le revêtement est plastifié dessus. Hein. Donc, il s'use et il perd du poids. Il perd environ 50 grammes. Il y a certains matchs où il perd que 30 grammes, hein, certainement. Hein.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai dit le poids du ballon en début de rencontre.
Et depuis quelque temps, je vois beaucoup de ballons crever quand même sur les pelouses de Ligue 1.
Il y a plus que les ballons.
Il y a quelques saisons.
Tiens, en parlant de ballon, on l'a retrouvé, la Mylène Dominguez. Alors, grosse précision, c'est pas l'ex-femme de Cristiano Ronaldo. C'est l'ex-femme de l'autre Ronaldo. Voilà, voilà. Donc, du coup, en voyant la photo, on comprend mieux. Non, mais voilà, donc je comprends. Voilà, elle avait le temps, effectivement. De faire des ongles.
C'est à toi, Jennings.
Et ouais, pour les résultats indis.
Ah oui, mais elle est charmante quand même.
Ouais, ça va.
Non ?
Oui.
Ou c'est peut-être. Ah non, mais attends, mais je suis sur Google et je fais n'importe quoi.
Tu te trompes de Mylène.
C'est pas celle qui pose avec un ballon.
Oui,
là.
Fada, envoie.
Je te l'envoie. Ça y est, je te l'ai envoyé. Sur ton Facebook en privé.
Ah non,
ça
c'est une russe, mais il faut l'acheter. Non, non, je dis des bêtises.
Non.
Évidemment, c'est des bêtises. Allez, vas-y. Jennings.
Allez, ben on commence. Ouais, donc on a un Français en finale de l'US Open de tennis fauteuil aujourd'hui à New York. C'est Stéphane Oudé qui est numéro 2 mondial. Alors il joue en ce moment contre le numéro 1 mondial qui est un Japonais. Alors vous pouvez suivre l'évolution du score sur la page Cœur Handisport sur Facebook.
Et puis à partir de minuit, c'est la finale du double. Un Français va gagner, ça c'est clair, puisque Stéphane Houdet, qui va jouer en plus la finale du double, va être avec un Britannique, et donc va affronter la paire tricolore Nicolas Pfeffer et Michael Jeremias. Il y avait également les mondiaux de para-badminton à Mandeville, c'est en Angleterre. Et l'équipe de France a réalisé une belle performance en remportant 3 médailles. Alors de l'argent pour Faustine Noël en simple dame, en catégorie SL4. Alors c'est une catégorie joueur ou joueuse debout ayant un handicap touchant un membre inférieur. De l'argent aussi pour Lucas Mazur en simple messieurs dans la même catégorie, et une médaille de bronze pour Colin Kerwanton en double messieurs en catégorie SU5, joueur debout ayant un handicap touchant les membres supérieurs. À noter encore ce week-end le titre de champion d'Europe pour Damien Seguin, alors en voile, et le sport. C'est quand même un très grand sportif car quand même le sportif le plus titré en voile, et il a un handicap au niveau de la main. Donc franchement, c'est une très belle performance en handisport ce week-end. Voilà pour les résultats handisport, Rémi.
D'accord.
J'ai ma petite question, oui, si vous voulez. Elle concerne le basketball. Donc la France, je le disais, a gagné face à la Tunisie. Il y avait Rudy Gobert.
Turquie.
Rudy Gobert, combien il chausse?
56?
Non, peut-être pas.
Non. Alors,
52?
49.
Il mesure 2m15 ou 2m17, c'est pas très clair. Ouais. Mais il ne fait rien de tout ce que vous avez dit, mais vous n'êtes pas très loin, forcément.
Bah,
50.
Un poil plus.
51,5.
Un poil plus.
52.
Un poil plus.
Bah, 53.
Oui. Et pour la même taille, Shaquille O'Neal, combien il faisait?
En pareil en pied?
Ouais.
58, oui. Non, 59.
C'est encore pas énorme, plus, c'est énorme. Encore plus. Encore plus.
60.
Encore plus.
1m60.
Du 64.
Un poil moins. 63.
Il jouait avec des raquettes, non?
Ben, il avait des raquettes au pied, ouais.
63, t'imagines, du 63, c'est presque comme si t'étais une sauterelle et que t'avais des membres comme ça, tout tordus, quoi. C'est bizarre, hein.
Zouzou la grenouille.
Mais comment ils font, les gars, pour trouver quand même des chaussures?
Ils les font faire.
Ah ouais, là.
Ouais, ben, elles sont même signées à leur nom. Là, y a pas de problème pour les chaussures à ce niveau-là. On
veut
pas de
problème.
Hein. Tu sais ce qu'on dit sur les grands pieds?
Non. Non, moi je sais pas.
C'est Pierre qui raconte ça.
C'est
là, il grand
peur.
Pied.
Il me fait peur, Jean-Claude.
Berthe au grand pied. Tu sais qui c'est, Berthe au grand pied?
Oui.
Mais, tu ne supporteras pas le grand pied. On l'aura la semaine prochaine dans la Disport.
Voilà.
Je sais plus où on en est. Une question.
Bah, l'agenda, peut-être. Il est l'heure. Sinon, moi j'ai encore une question quiz. Hein,
si allez, une question quiz.
Alors, toujours autour de la Coupe du Monde de rugby hein, qui débute vendredi. Alors, c'est la 8e édition d'une Coupe du Monde de rugby. Ma question est simple. Quelle est la nation qui compte le moins de participation, tout en ayant participé quand même hein,
Pays de Galles.
Non, c'est pas le Pays de Galles.
Les Samoa.
C'est pas les Samoa.
Argentine.
Les Japonais.
Fiji. C'est pas le Japon.
Argentine.
Pardon, c'est pas l'Argentine. Jean-Claude.
Namibie.
Cherche au Google. Non, c'est pas la Namibie.
La
oh,
Roumanie.
Content, là.
Vous pouvez répéter la question?
Ouais, quelle est la nation qui compte le moins de participation dans une Coupe du Monde de rugby? Il y en a eu 8 Coupes du Monde de rugby.
Italie.
Non, c'est pas l'Italie. Non.
Une petite île perdue au fin fond du Pacifique.
Non, c'est pas une île, c'est pas au fin fond du Pacifique. Et c'est une équipe qui sera présente cette année.
Les États-Unis.
La Roumanie. Le Rugby.
Non. Ouais, bravo Jean-Claude, c'était l'Uruguay, ouais. Ah, je suis content quand même, vous avez eu du mal. Ouais, c'est l'Uruguay.
Avec l'Angleterre, l'Australie, les Fidji, le Pays de Galles et l'Uruguay.
Voilà, 3 participations pour l'équipe d'Uruguay dans une Coupe du Monde de rugby. C'est le pays qui compte le moins de participations. Je vous rappelle que 25 nations ont déjà participé à une Coupe du Monde de rugby en comptant celle qui va commencer le week-end prochain.
Alors c'est parti pour l'agenda, s'il vous plaît.
Ligue des Champions, c'est reparti. Ça y est, dès mardi, le Paris Saint-Germain face à Malmö, le club formateur de Zlatan Ibrahimovic. Est-ce que Zlatan sera présent? On ne sait pas encore. Mais je sais pas. Sûr. Tu as l'info, Jennings, est-ce que Zlatan sera joué contre son ancien club?
Ah oui, il va jouer parce qu'il a été ménagé face à Bordeaux. Donc,
d'accord. Donc, Zlatan jouera donc son ancien club formateur. Ça sera Ligue des Champions. Ça sera mardi soir. Mercredi, la Gantoise face à Lyon. Jeudi, l'Europa League avec une très belle affiche qui opposera Bordeaux face à Liverpool. L'Olympique de Marseille et Saint-Etienne seront également concernés par cette Europa League. Et le week-end, nous aurons un petit week-end très 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 sympa avec un Olympico le dimanche soir, le grand retour de Mathieu Valbuena au stade Vélodrome sous les couleurs lyonnaises. Ça sera donc pour dimanche soir en Ligue 1.
Marseille, ouais. Il joue contre qui là jeudi?
Il joue contre, alors c'est un nom à coucher dehors, Groningen. Ça te va?
Ah, Groningen.
Non, ça se dit pas comme ça.
Groningen, c'est pas
Groningen.
Ça. C'est...
Groningen. Fascistas, petite et fenêtre.
Des Danois donc. Hein. L'équipe de France de basket, on l'a dit, ça sera demain soir en quart de finale du championnat d'Europe de basket qui se joue en France. Il y aura aussi du rugby. On en a parlé, mais le détail pour cette Coupe du Monde et le reste, c'est avec Jean-Claude.
Alors, du 18-9 au 31 octobre, 20 équipes, 48 matchs, près de 3 millions de spectateurs pour la Coupe du Monde du rugby, 4 poules. La France est dans la poule D avec le Canada, l'Irlande, l'Italie, la Roumanie. Premier match d'ouverture après le match USM contre Aurillac, resté à Sapiac. Il y aura des écrans géants pour regarder l'ouverture avec Angleterre-Fidji. Et le lendemain, il y aura France-Italie pour une belle victoire de l'équipe de France. Tous en bleu, blanc, rouge.
Mais c'est une poule jackpot, là, pour l'équipe de France.
Ouais, parce que t'as la poule de la mort qui est derrière, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, l'Écosse, le Japon, le Samoa, l'USA, mais t'as aussi la poule A avec l'Angleterre, l'Australie, les Fidji et le Pays de Galles. Et cette poule A, c'est celle-là qui va être dure.
Ouais, mais là, si l'équipe de France ne se qualifie pas...
Pour éviter les blagues, il faut absolument finir premier de poule, donc il faudra battre les Irlandais le dernier match au mois d'octobre.
Là, si l'équipe de France ne se qualifie pas, on peut plus rien espérer d'eux, là.
Là, c'est un coup de fusil quand il rentre.
Faut y aller, Coco, là. Allez, agenda, là.
Ah. Ben oui, à partir de demain et jusqu'à dimanche se disputent les championnats d'Europe de rugby fauteuil. En Finlande, l'équipe de France va y participer. Et les deux finalistes de cette compétition seront qualifiés pour les Jeux paralympiques de Rio l'an prochain.
Eh ben voilà. Merci, messieurs.
Eh ben, une bonne soirée à vous tous.
Et bonsoir à tous.
À lundi prochain.
Ça vous tourne bien.
Ciao.
Ciao, ciao.
Info. CFM, les infos.
Bonsoir à tous. Un sommet d'urgence à Bruxelles.